Ici Véronique Bellemare-Brière, présidente fondatrice de l'Institut Somna pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, un enfant sur cinq aux États-Unis maintenant sous mélatonine. Bonjour, bonjour tout le monde. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast, que j'ai pas eu la chance de m'asseoir pour vous parler. J'avais vraiment hâte de revenir. En fait, je vous explique, bien sûr, il y a eu les voyages. Dans les derniers mois, j'ai fait comme une tournée internationale. Donc, je me suis rendue à Sainte-Lucie, en Martinique, au Portugal, également au Panama. Et j'en ai profité, bien sûr, pour rencontrer des membres du réseau Somna. Ça me fait toujours grand plaisir d'avoir la chance de voir les gens en personne, de fraterniser, mais aussi, bien sûr, à observer un peu comment se passait le sommeil dans ces différentes cultures. Et c'est intéressant de voir que les cultures effectivement les plus industrialisées ont d'énormes difficultés de sommeil, alors que d'autres sont restées un peu plus proches de leur rythme naturel et pour elles, ça va beaucoup mieux. Alors bref, oui, il y a des constats qui sont évidents à faire, puis on va continuer de les faire ensemble dans ce podcast, aussi dans nos formations, sur le blog, dans l'infolettre. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à l'infolettre, bien sûr, vous êtes toujours bienvenus. On envoie des infolettres ponctuellement, pas seulement pour annoncer ce qui s'en vient, ce qu'on a comme offre, mais bien sûr également pour vous informer sur le sommeil. Alors bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis je dois vous dire que si ça m'a pris tant de temps à refaire un épisode, c'est aussi parce que pour la première fois depuis le tout début de la pandémie, c'était mon tour, j'ai attrapé cette fameuse COVID-19 lors du voyage au Portugal et donc je n'avais plus suffisamment de souffle pour vous faire un bel épisode et vous parler chaleureusement comme je le souhaitais. Mais comme vous savez, les épisodes sont toujours improvisés, alors il n'y a pas de script. Donc, j'essaie bien sûr d'être le plus spontané, le plus authentique possible, d'être là comme si vous étiez en face de moi. Et c'est important pour moi. Alors, je voulais pas vous tousser à l'oreille pendant toutes ces minutes. Ça me permet de vous donner donc quelques nouvelles. Je suis d'ailleurs très heureuse de vous retrouver. Merci encore une fois à toutes ces personnes qui nous suivent. Il y a vraiment de plus en plus de gens, autant dans le réseau Somna que dans la communauté, dans le podcast. Vous êtes des personnes de plus d'une douzaine de pays qui suivent nos actualités et ça nous fait toujours grandement plaisir. Donc, merci. Si vous souhaitez aller mettre des étoiles, 5 petites étoiles pour apprécier le podcast, bien sûr, ça nous permet de remonter dans le référencement et de rejoindre encore plus de personnes. Donc, pour les dernières nouvelles, eh bien, outre cette tournée, il y a aussi eu le lancement d'une attestation de connaissances fondamentales en sommeil de la petite enfance et on a des nouvelles étudiantes qui se sont jointes justement au programme, donc on leur souhaite la bienvenue dans le réseau Somna. On a aussi, bien sûr, nos autres programmes qui ont redémarré, alors les certifications qui sont toujours disponibles, les certifications plus VIP, donc bref, tout ça, c'est encore disponible en ce moment, mais également, on va relancer bientôt notre programme Go Dodo, qui a eu un bon succès auprès des parents, et on va relancer aussi bientôt notre programme SOS Insomnie, qui, lui, est plutôt destiné aux adultes. Alors ça, c'est un peu tout ce qui s'en vient, puis bien sûr, on va accueillir plusieurs nouveaux étudiants. Déjà, c'est commencé en ce moment, il y en a qui commencent déjà tout de suite, mais généralement, à la nouvelle année, au mois de janvier, il y a toute une nouvelle cohorte, si on peut dire, même ce ne sont pas comme telles des cohortes, parce que nous, on vous permet de faire les formations à votre rythme, de commencer, de terminer au moment où vous le souhaitez. Donc, bref, c'est pas comme telle une cohorte, puisque tout le monde peut aller selon ses disponibilités, mais malgré tout, on remarque qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en même temps au mois de janvier. Alors, on est prêt à vous accueillir, ça va nous faire plaisir de vous retrouver parmi nous très bientôt. Il y a aussi plusieurs étudiants et aussi des gens qui suivent l'infolettre qui nous ont écrit pour nous demander qu'est-ce qui se passait parce que ils ont vu passer un autre podcast qui portait le même titre que le nôtre. Mais là, il y a eu toute une confusion, puis vous êtes plusieurs à m'avoir écrit, nous demandant si la personne qui lançait ce nouveau podcast du même titre que le nôtre était associée avec nous. Et non, pas du tout. En fait, c'est une personne qu'on ne connaît pas personnellement. On connaît simplement son nom. Et donc, on n'est pas du tout associé d'aucune façon. Alors, je voulais dissiper cette confusion. La personne sait maintenant que c'était notre titre depuis plusieurs années. Alors, on lui a fait part là, du fait que ça créait une confusion auprès de la clientèle, aussi bien la sienne que la nôtre. Alors, bref, elle est informée. Et là, ben, il n'en tient qu'à elle. Donc, voilà. Donc, en tout cas, vous savez que le nôtre est toujours à ce lien-ci, qu'il est facile à retrouver, voilà, SOS Sommeil, SOS Dodo, SOS Insomnie, vous retrouvez ça ici, à la même adresse. Maintenant, puisqu'on arrive dans les actualités, j'avais envie de vous parler d'un article sur lequel je suis tombée cette semaine dans Doctissimo, qui titrait « Aux États-Unis, un enfant sur cinq est désormais sous mélatonine pour dormir ». Et les experts tirent la sonnette d'alarme. Alors, c'est un article qui a été publié le 14 novembre 2023 à midi, très précis. Hein? Et puis, finalement, c'est Luc Blanchot qui l'a rédigé. Mais en fait, ce qu'il mentionne dans son article, c'est qu'aux États-Unis, près d'un enfant sur cinq prend désormais de la mélatonine pour dormir et qu'il y a certains parents qui donnent régulièrement cette hormone à leur enfant, pourtant en bonne santé. Donc, les experts alertent sur les dangers potentiels d'une telle pratique. Déjà, c'est bien de se poser la question parce que c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années à l'Institut Somnant. En fait, il y a beaucoup de personnes qui nous mentionnent avoir donné de la mélatonine à leur enfant ou que leur pédiatre leur a mentionné qu'il fallait en donner. Et on nous demande notre position. Bon, évidemment, de notre côté à l'Institut Somnant, on n'est pas médecin, on n'est pas là pour évaluer, si on veut, les risques directs des médicaments, les posologies à prendre. De toute façon, on ne fait pas de prescription. Alors, évidemment, c'est pas dans cet ordre-là que je vais pouvoir vous donner des précisions. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques années, la mélatonine était complètement encore interdite aux enfants, aux femmes enceintes, étant donné qu'on ne connaissait pas son inocuité. On n'était pas certain qu'il n'y avait pas de tort qui pouvait être créé à long terme. J'écoutais ce matin une pédiatre, Julie Saint-Pierre, qui disait que pour elle, non, il n'y avait aucun risque, que ça pouvait même être bénéfique, mais au-delà du fait qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas de risque à prendre ces molécules, moi, ce que j'ai toujours eu envie de relever, c'est le fait qu'un enfant est à pleine capacité naturelle de sécrétion de mélatonine. Alors, pourquoi on aurait besoin de lui donner un supplément s'il est à pleine capacité naturelle de sécrétion de mélatonine? C'est un peu absurde. C'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que les enfants n'arrivent plus à sécréter suffisamment de mélatonine. Et là, ben, on va regarder, on va résumer à la fin, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécréter naturellement de la mélatonine, mais je vais quand même continuer un petit peu avec l'article qui mentionne qu'il y a effectivement des scientifiques américains, qui alertent sur une consommation trop démocratisée, trop banalisée, trop fréquente de mélatonine par des enfants, alors que les données de sécurité et d'efficacité concernant ces produits sont aujourd'hui insuffisantes. Alors, malgré la prise de position de la pédiatre dont je viens de vous parler, de l'autre côté, on entend encore plusieurs personnes qui sont inquiètes par rapport au fait que on n'est pas 100% sûr de l'innocuité de la mélatonine. On ne sait pas ce que ça fait à long terme et encore moins dans le corps d'un enfant qui, lui, est en pleine croissance. Puis, comme je viens de le dire, en pleine capacité maximale de production hormonale. Alors, la mélatonine pour enfants, dans ses sous-titres, on mentionne que c'est un produit qui est devenu trop courant. C'est une hormone, effectivement, la mélatonine, mais qui est produite naturellement par la glande pinéale pour signaler au corps qu'il est temps de dormir. Alors, elle va permettre de réguler le rythme circadien, donc on sait que c'est le rythme veille-sommeil qui se calcule sur une période de 24 heures, et dans de nombreux pays, encore en 2023, il y a la possibilité, bien sûr, de se procurer de la mélatonine en vente libre, mais il y a aussi de nombreux pays qui la classent comme un médicament. et qui est disponible uniquement sur ordonnance. Donc, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on n'est pas sûr encore des effets à long terme. Et en France, ben bizarrement, ce que mentionne l'article, c'est que le statut de complément alimentaire lui a été attribué, à condition que le produit contienne moins de 2 mg et devienne un médicament. Il va plutôt devenir un médicament au-delà de 2 mg. Avec toutes les réserves et les précautions propres à ces produits. Mais pourtant, quand je parle à des clients de France, généralement, on me dit que bah, c'est considéré juste comme un produit naturel, tout à fait inoffensif, et que souvent, ben, ce sont les médecins qui vont proposer aux gens d'en prendre. Alors, bien sûr, chez un adulte qui a plus de 50 ans, qui est en déficit réel de mélatonine, parce que, bon, les hormones commencent à se sécréter plus difficilement à mesure que l'on vieillit, peut-être que ça va être une aide. Mais par contre, chez les enfants, j'ai toujours trouvé très, très, très curieux qu'on en vienne à prescrire carrément de la mélatonine chez des enfants qui sont en pleine santé, puis qui sont tout à fait capables de la produire naturellement. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a des enfants qui vont souffrir de syndromes particuliers, d'autisme, qui vont avoir une déficience visuelle. Pour eux, ça va être plus difficile de sécréter la mélatonine. Mais chez les enfants qui n'ont pas ces problèmes-là, ou en tout cas ces caractéristiques-là, normalement, il n'y a aucun problème à la sécréter. Encore faut-il que l'on fasse ce qu'il faut pour qu'elle puisse se sécréter naturellement. Parce que si on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle ne se sécrète pas, ben bien sûr, il va y avoir un déficit. Puis c'est un peu absurde de devoir supplémenter un déficit alors qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour qu'elle se sécrète naturellement. Alors, l'article poursuit en disant qu'aux États-Unis, la situation réglementaire est assez proche. La mélatonine synthétique, donc synthétisée chimiquement ou d'origine animale, est disponible en vente libre comme complément alimentaire et de plus en plus disponible sous forme de bonbons gélifiés adaptés aux enfants. Donc des bonbons, imaginez. Des bonbons vraiment pour les enfants pour qu'ils prennent plus facilement la mélatonine. On n'oublie pas. Dans des cas comme ça, on en vient à oublier que c'est une hormone qu'on leur fait prendre. Donc moi, ça me fait sursauter un peu. Alors, c'est ce qui a poussé les auteurs à s'intéresser à la diffusion de cette hormone chez les enfants. Et là, il y a Laurent Artstein, qui est du laboratoire de sommeil et de développement de CU Boulder. Donc CU, je sais pas exactement ce que c'est, mais en fait qui mentionne tout d'un coup en 2022, nous avons commencé à remarquer que de nombreux parents nous disaient que leur enfant en bonne santé prenait régulièrement de la mélatonine. Donc en bonne santé, c'est quand même important de le souligner parce que comme on le dit, quand on est en bonne santé ou quand on n'a pas un syndrome particulier, on est à pleine capacité de sécrétion hormonale. Alors, en 2017-2018, il y avait seulement environ 1,3% des parents américains qui avaient déclaré que leur enfant consommait de la mélatonine. Alors, pour avoir une idée de la prévalence actuelle de la consommation, Artstein, je ne sais pas comment il prononce son nom, et ses collègues ont interrogé environ 1000 parents au cours du premier semestre de 2023. Et là, ce qu'on a constaté, c'est que plus l'enfant était âgé, plus la dose de mélatonine synthétique c'était pas toujours prescrit, parfois c'était en vente libre aussi, mais qu'on lui donnait était de plus en plus élevée. Donc, selon les résultats de cette étude, il apparaît que parmi les enfants âgés de 5 à 9 ans, il y a 18,5% des enfants qui avaient reçu de la mélatonine au cours des 30 jours précédents. 18,5% des enfants de 5 à 9 ans. Pour les préadolescents, donc les enfants âgés de 10 à 13 ans, ce chiffre est passé, selon l'article, à 19,4%. Et toujours selon l'article, il y a près de 6% des enfants d'âge préscolaire âgés de 1 à 4 ans qui avaient utilisé de la mélatonine au cours du mois précédent. J'ai la langue qui fourche, je suis désolée. Mais en fait, les enfants d'âge préscolaire qui utilisaient de la mélatonine en prenaient depuis une durée moyenne d'un an. un an. Imaginez, la mélatonine, c'est fait pour réguler le rythme circadien. Alors, normalement, on l'utilise en cas de décalage horaire pour quelques jours, simplement pour se mettre à un nouveau fuseau horaire. Mais là, on parle de la prise de mélatonine un peu comme si c'était un somnifère. Donc, à tous les soirs, durant une année, les élèves du primaire et les préadolescents l'ont utilisé pendant une durée moyenne de 18 et 21 mois, respectivement. Et plus l'enfant est âgé, plus la dose est élevée. Les enfants d'âge préscolaire prenant entre 0,25 et 2 mg et les préadolescents jusqu'à 10 mg de mélatonine chaque soir. Alors, on rappelle dans cet article-là aussi qu'il y a plus de 530% d'ingestion rapportée au centre anti-poison. En 9 ans, imaginez. Dans une étude publiée en avril, comme le poursuit l'article, les chercheurs ont analysé 25 produits gommeux à la mélatonine et ont découvert que 22 d'entre eux contenaient des quantités de mélatonine différentes de celles indiquées sur l'étiquette. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des produits qui ne sont pas contrôlés comme les médicaments chimiques. Quand ça rentre dans la catégorie des produits naturels, souvent on n'est pas trop sûr de la composition, de la posologie, de la concentration. C'est pas toujours très clair parce qu'il n'y a pas le même contrôle que les médicaments chimiques. Donc, évidemment, il y a des gens parfois qui viennent en consultation qui me disent « Ah, moi j'ai essayé la mélatonine, ça m'a tenu réveillé toute la nuit ou ça a engendré plein de cauchemars ou tout ça. » Oui, ça va avoir des effets différents sur chacun, dépendant évidemment de la molécule qui va être différente d'une compagnie à l'autre, mais aussi de la métabolisation de chaque personne. Ça, c'est la même chose pour les médicaments et pour les aliments. Donc, effectivement, dans certains cas, il faut en essayer plusieurs compagnies avant de trouver une qui peut relativement faire l'affaire. Mais dans tous les cas, la mélatonine, synthétique, c'est vraiment un petit boost occasionnel. C'est comme une béquille très temporaire pour nous aider à combler un déficit de mélatonine réel lorsqu'on est, par exemple, en décalage horaire parce qu'on a pris l'avion, on est dans un autre fuseau horaire, dans un autre pays. Mais ce n'est pas un somnifère. Je connais très peu de personnes qui n'ont jamais de sécrétion de mélatonine. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des syndromes particuliers, il y a des situations où les médecins doivent prescrire des suppléments de mélatonine parce qu'il y a un déficit réel, mais c'est quand même très rare. Alors, bref, dans le cas là, de ce qu'on rapporte ici, au centre antipoison, eh bien, il y avait même un des médicaments un des flacons qui contenait plus de 3 fois le montant indiqué sur l'étiquette, quand d'autres n'en contenaient pas du tout. Donc, je parle pas de médicaments, là, j'ai fait un lapsus, je parle vraiment des contenants de mélatonine. Et de plus, il y a certains suppléments de mélatonine qui contiennent d'autres substances préoccupantes, comme de la sérotonine. La sérotonine, les parents ne le savent peut-être pas réellement, mais c'est ça, c'est aussi une hormone que l'on sécrète en principe naturellement. Donc, il y a des gens, par contre, qui sont en déficit de sérotonine, qui prennent des recapteurs de sérotonine, et ça peut être pris à long terme. C'est autre chose. C'est un médicament qui est conçu généralement, selon la molécule qui est prescrite par le médecin, mais qui est conçu soit pour pallier une dépression ou encore un déficit de sérotonine. Des gens qui souffrent d'anxiété généralisée, parfois, vont prendre ce genre de médicament. Mais dans ce cas-ci, là, ce qu'on nous disait, en tout cas que le docteur on va dire que c'est Hartstein, je suppose que c'est Hartstein plutôt que Hartstein. Donc, le docteur Hartstein déclare que les parents ne savent peut-être pas réellement ce qu'ils donnent à leurs enfants lorsqu'ils administrent ces suppléments. Et ça, je suis tout à fait d'accord parce que même nous, on a du mal à le savoir. Même les gens qui ont étudié en naturopathie, qui n'ont jamais d'ailleurs recommandé l'administration de la mélatonine chez les bébés, chez les enfants, jamais. Au contraire, on a toujours l'information que c'était contre-indiqué. Mais même ces gens-là qui connaissent la composition des produits naturels n'arrivent pas à connaître exactement ce qu'il y a dans chaque flacon, étant donné ce qu'on disait tout à l'heure, donc ce type de contrôle qui est très, très différent de celui des médicaments conventionnels. en fait, des médicaments tout court, parce que ça, c'est pas considéré un médicament, c'est vraiment un produit naturel et un supplément, mais c'est quand même une hormone. Alors, il y a certains scientifiques, comme il est mentionné dans l'article, qui ont également exprimé des inquiétudes quant au fait que l'administration de mélatonine à des jeunes dont le cerveau, et ça fait au moins... Je dirais 20 ans que je dis ça, moi, même si je suis pas dans les chercheurs et je ne suis pas non plus médecin, mais là, on le mentionne clairement dans cette étude. Donc, il y a certains scientifiques qui exprimaient leurs études quant au fait que l'administration de mélatonine à des jeunes dont le cerveau et le corps sont encore en développement pourrait influencer le moment du début de la puberté. Évidemment, il peut y avoir un lien, on joue avec des hormones. Alors, c'était simplement une intuition pour ma part parce que, évidemment, je n'avais pas de preuves scientifiques, mais là, ça commence à sortir. Alors, il y a quelques études humaines à petite échelle qui se sont penchées sur ce sujet, ont donné des résultats incohérents d'ailleurs. On parle des bonbons gélifiés en particulier qui comportent également un autre risque. Ils ressemblent et ont le goût des vrais bonbons. Alors, une façon idéale pour rendre les enfants accros à la prise d'hormones synthétiques sans savoir ce que ça va faire à long terme. Et non, des hormones, ce ne sont pas des bonbons. Et toujours selon l'article, de 2012 à 2021, eh bien, on dit que les rapports d'ingestion de mélatonine dans les centres antipoison ont augmenté de 530%, mais qu'ils surviennent en grande partie chez les enfants de moins de 5 ans. Imaginez, moins de 5 ans qui sont déjà supplémentés avec des hormones synthétiques. Plus de 95% étaient involontaires et 85% étaient asymptomatiques. Alors, évidemment, c'est comme presque un médicament là, quand on voit tout ce que l'on ne sait pas encore et ce que ça peut faire. Mais en tout cas, je continue la lecture de l'article. La co-auteure Julie Boergers, en tout cas, j'espère le prononcer correctement, psychologue et spécialiste du sommeil pédiatrique à l'hôpital du Rhode Island et à la faculté de médecine d'Alpert de l'université de Brown University, donc l'université de Brown, a déclaré que lorsqu'elle est utilisée sous la supervision d'un professionnel de santé, la mélatonine peut être une aide utile, et ça je suis tout à fait d'accord quand ça s'applique, et elle mentionne précisément une aide utile à court terme. Court terme! Donc, enfin, on le mentionne quelque part, que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à long terme. Nous, c'est quelque chose qu'on l'a dit depuis au moins une vingtaine d'années, là, qui était tout à fait une information connue, mais ça sort très rarement dans les médias. Alors, enfin, là, c'est écrit noir sur blanc dans les médias, en particulier chez les jeunes autistes ou ayant de graves problèmes de sommeil. Exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a des cas particuliers, exceptionnels, mais ce n'est pas la majorité. L'introduction de la mélatonine tôt dans la vie pourrait également avoir une autre conséquence involontaire, a déclaré Hartstein. Cela pourrait envoyer le message que si vous avez du mal à dormir, une pilule est la solution. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on dit depuis des années, c'est que même s'il n'y avait aucun effet négatif à la prise de suppléments de mélatonine, d'hormones synthétiques chez l'enfant, dans tous les cas, ça lui enseigne qu'il a besoin d'une pilule extérieure pour réussir à dormir. Donc, qu'est-ce qu'il comprend, l'enfant? Il comprend qu'il est en quelque sorte défectueux, qu'il n'est pas capable de dormir par lui-même et qu'il a à tout prix besoin de cette béquille pour réussir à dormir. Et quand on intègre cette information-là, ben, par la suite, on ne développe pas l'habileté de se laisser aller au sommeil. C'est impossible. Donc, et même, ce qui peut arriver, c'est que ça peut aggraver la situation parce qu'au fil des années, il va y avoir une habituation, que ce soit avec un médicament ou que ce soit avec un produit naturel, il y a une habituation qui survient. Même quand, si on parle de shampoing, on nous suggère de changer régulièrement de shampoing parce que les cheveux s'habituent. Ben, c'est la même chose dans le corps. Si on a une habituation à un produit naturel ou à un médicament éventuellement, ben, ça ne fait plus effet. Et là, qu'est-ce qui se passe? On doit prendre un médicament un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort, ou un produit un peu plus fort pour avoir le même effet. Et là, dans quoi on peut tomber? Eh bien, l'avenir nous le dira. Évidemment, je ne veux pas être alarmiste et dire que tous les enfants qui ont pris à un moment de la mélatonine vont développer ce problème. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce n'est pas le bon cercle dans lequel les faire entrer. Parce que oui, ça peut devenir un cercle vicieux et ça peut ça peut dégénérer au fil des années, puis surtout quand on est rendu préadolescence, adolescence, et qu'en plus on a un retard de phase de sommeil, eh bien là, ça peut jouer des tours, effectivement, puis ça peut engendrer des insomnies qui éventuellement vont se perpétuer jusqu'à l'âge adulte. Et là, dans l'article, on dit que c'est un avis qui est partagé par le docteur Yves Dour, pharmacien et membre du comité d'experts de Doctissimo, donc qui mentionne, certes, les effets secondaires de type neurologique, digestif ou cardio-respiratoire peuvent être dramatiques chez les enfants. Mais en réalité, de ce que je vois au sein de mon officine, la mélatonine est très peu utilisée chez l'enfant. C'est ce que lui voit. C'est pas ce qu'on voit aux États-Unis selon cet article, selon cette étude. Elle est en effet prescrite sur ordonnance et nécessite un diagnostic médical. Donc, c'est un pharmacien qui dit ça. Contrairement aux États-Unis où la mélatonine est plus facilement mobilisable, on ne peut pas trouver cette molécule en vente libre au-delà de 1,9 mg. À partir de 2 mg, il s'agit d'un médicament et non d'un complément alimentaire. Alors, ça, c'est pour la France, mais évidemment, on a parlé de nombreux pays et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et là, l'article, il continue, donc c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, parce que effectivement, c'est un des articles les plus intéressants des dernières années que j'ai vu sortir là sur le phénomène de la banalisation de la mélatonine. Et si vous voulez le voir, vous retournez sur le site de Doctissimo. Mais en fait, là, on arrive aux solutions pour aider les enfants à dormir. Alors, toujours le docteur Arnstein va déclarer que si autant d'enfants prennent de la mélatonine, ça suggère qu'il existe de nombreux problèmes de sommeil sous-jacents qui doivent être résolus. S'attaquer aux symptômes ne s'attaque pas nécessairement à la cause. Et ça, encore une fois, je cite parce que je trouve que c'est vraiment pertinent. On oublie toujours que chaque problème a sa source et que c'est à la source qu'il faut travailler. C'est ce qu'on fait en naturopathie. Mais du côté de la médecine conventionnelle, c'est plutôt le contraire. C'est qu'on va avoir tendance à travailler sur le symptôme pour faire disparaître le symptôme. Mais par contre, la source du symptôme, elle n'a pas été désactivée. Alors, comment on fait pour désactiver cette source du symptôme? Parce que oui, effectivement, les médicaments, la pharmacothérapie vont être très utiles dans des moments de crise pour justement avoir notre bouée de secours qui va nous permettre de neutraliser les symptômes alors qu'on a perdu le contrôle sur la source. Mais après, si on veut reprendre un certain contrôle, il va falloir revenir à la source. Alors, pour revenir à cette source, eh bien, le docteur Dour, qui est aussi cité dans l'article, il tient également à rappeler que de nombreux troubles du sommeil chez l'enfant peuvent être résolus en modifiant les horaires et les habitudes plutôt qu'en prenant de la mélatonine. Et il mentionne, il faut revenir aux fondamentaux. Avant le coucher, il est nécessaire de favoriser la détente. Également, on va éviter les excitants comme les écrans, les programmes violents. Et là, il dit, endormir l'enfant dans de bonnes conditions est essentiel, mais je corrigerai un petit quelque chose ici parce qu'on ne peut pas véritablement endormir quelqu'un, mais on peut créer le contexte favorable pour que l'enfant puisse se laisser aller au sommeil, comme on le fait à l'Institut Somnat avec ce qu'on a appelé chez nous la mise en scène du sommeil en douceur. Alors bref, ces recommandations à Dr. Dour sont effectivement proches de celles de l'American Academy of Sleep Medicine, donc en fait qui est une ressource mondiale dans le domaine, qui va insister sur le fait de maintenir un horaire de sommeil cohérent, se coucher et se réveiller à la même heure chaque jour, même la fin de semaine, de limiter bien sûr le temps passé devant un écran avant de se coucher, donc il faut réduire cette exposition aux écrans pour aider son corps à se préparer au sommeil. Pourquoi? Parce que l'exposition à la lumière bleue des écrans, eh bien, elle stoppe la sécrétion de mélatonine. Alors, s'exposer aux écrans pour ensuite prendre un supplément de mélatonine, c'est un peu farfelu en soi. Alors, effectivement, il mentionne d'encourager l'enfant à débrancher tous les appareils au moins 30 minutes à une heure avant le coucher. Mais là, on ne mentionne pas de quel âge ces enfants avaient, parce que effectivement 30 minutes à une heure, c'est pour les grands enfants habituellement là. Les petits enfants, on ne devrait même pas les exposer du tout aux écrans en bas de 2 ans, et plus vieux, ben on arrête beaucoup plus tôt que 30 minutes à une heure avant le coucher. Donc ça, c'est plutôt pour les enfants qui sont déjà rendus au secondaire là, qu'on recommande ce genre de délai-là. Ensuite, on va évidemment insister sur la routine nocturne relaxante qui va aider l'enfant à se détendre, à se préparer au sommeil. Et là, on mentionne que ça peut inclure un bain ou une douche chaude, un journal ou une lecture avant de se coucher. Et là, encore une fois, je sens le besoin d'apporter une nuance importante, c'est-à-dire que un bain, oui. Une douche, moi je dirais que non, parce que ça stimule encore davantage avec la pression et ça active la circulation sanguine, à moins qu'on ait presque pas de pression dans la douche. Ça dépend toujours du niveau de pression qu'on a chez soi. Mais dans tous les cas, c'est le chaude qui me dérange ou le chaud pour le bain, parce que effectivement, le but de prendre un bain, c'est de se relaxer, de détendre les muscles. Mais pour réussir à entrer dans le processus d'endormissement, il faut physiologiquement que la température interne du corps s'abaisse d'un demi à un degré. Alors, si on prend un bain ou une douche qui sont trop chauds, ben, ça va avoir l'effet contraire. Ça va augmenter la température interne et là, ça peut rentrer en compétition avec le processus d'endormissement. Les gens qui sont très frileux ne voient pratiquement pas la différence, mais les gens qui ont déjà une température interne élevée vont le sentir. Moi, je peux vous dire en tout cas que je ne peux absolument pas prendre un bain chaud le soir. Si je le fais, je ne dormirai pas de la nuit. Alors, c'est le cas aussi chez bien des enfants qu'on voit sortir tout excités en sortant du bain parfois. Alors, bref, ça, c'est une nuance que j'aurais apportée, mais en conclusion, ce que l'article plutôt mentionne, c'est que on ne sait pas en fait ce qu'il y en est encore de la mélatonine. Elle n'est peut-être pas nécessairement nocive pour les enfants. Mais en même temps, on mentionne qu'il reste encore beaucoup de recherches à faire avant de pouvoir affirmer avec certitude que le traitement à long terme est sans danger pour les enfants. D'où justement cette mention du fait que l'on ne connaît pas l'innocuité de la prise d'une hormone synthétique comme la mélatonine dans le développement des enfants et qu'on ne connaît pas non plus son innocuité à long terme, mais simplement c'est moins inquiétant chez les adultes puisqu'ils ont déjà terminé leur croissance. Mais dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui devrait être pris à long terme, c'est quelque chose habituellement qu'on prend sur quelques jours seulement. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais bien sûr, on devrait mettre tout en place pour que notre enfant puisse sécréter naturellement ses hormones du sommeil. En fait, ce sont la mélatonine, c'est plutôt une hormone qui permet d'induire le sommeil. Souvent, on appelle ça l'hormone du sommeil, mais c'est pas tout à fait exact. C'est une hormone qui permet d'induire le sommeil et que l'on sécrète tous naturellement, à condition bien sûr de faire ce qu'il faut au bon moment pour la sécréter. Et là, ça peut passer par différentes choses. Ça peut passer à la fois par l'exercice physique, par les expositions alternées à la clarté, à l'obscurité, l'exposition à divers stimulus ou encore le retrait de divers stimulus. Et ça peut passer aussi par l'alimentation. Notamment, on a des formations à l'Institut Somnant et on a aussi lancé un guide qui s'appelle « Se nourrir pour dormir » dans lequel on vous présente les aliments qui sont favorables au sommeil et les aliments qui sont ennemis du sommeil. Alors oui, ça va avoir un effet sur la sécrétion de mélatonine parce que si on prend des aliments qui sont par exemple dopaminergiques, donc qui favorisent la sécrétion de dopamine qui est une hormone stimulante, ben on risque de rester coincé dans la zone d'éveil. Alors que si on prend au contraire des aliments que l'on dit sérotoninergiques, donc qui vont permettre d'engendrer la sécrétion de sérotonine qui est un précurseur de la mélatonine, eh bien là on va plutôt favoriser le sommeil. Et il y en a plein des aliments qu'on vous mentionne dans ce guide-là. Si jamais ça vous intéresse, il est disponible. Vous allez sur notre site somna.ca dans la section livres. Vous allez pouvoir le trouver, là, se nourrir pour dormir. Ceci étant dit, ce qui est important, c'est vraiment de faire des bonnes combinaisons au bon moment pour réussir à favoriser justement cette sécrétion des hormones apaisantes qui va prédisposer au sommeil. Et parmi les aliments que l'on vous présente dans ce guide, il y a aussi notamment la fameuse cerise qui a été utilisée dans bien des études, même parfois comme placebo chez des gens qui prenaient de la médication pour dormir. Et on a vu des résultats formidables. Pourquoi? Parce que C'est bourré de mélatonine, des cerises. Alors, pourquoi aller chercher des suppléments alors qu'on pourrait utiliser l'alimentation? Ça, c'est une autre question que je pose souvent. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, toute cette histoire-là de justement apprendre à stimuler naturellement les hormones du sommeil, à bien dormir par les cinq sens, on a aussi un bloc thématique à l'Institut Somnant qu'on a créé qui est facile à trouver aussi sur institutsomna.learnworlds.com, donc learnworlds au pluriel.com, et ça s'appelle « Stimuler naturellement les hormones du sommeil, bien dormir par les cinq sens », tout simplement. Alors, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous retrouve bien sûr très bientôt pour un prochain épisode d'SOS Sommeil. L'Institut Somnant offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants, nous avons récemment lancé 3 nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somnant.ca.